pour continuer à adorer notre Dieu, à faire la meilleure chose qui soit dans la vie, à savoir nous asseoir dans la présence du Dieu Tout-Puissant et trois fois saint pour lui rendre gloire, les honneurs, la vénération qui ne reviennent qu'à lui seul, mais également pour l'écouter parler à nos cœurs. Quelle grâce, frères et sœurs bien-aimés. Les gens qui ont des amis qu'ils aiment beaucoup, des parents qu'ils aiment beaucoup, auxquels ils sont très attachés, à chaque fois que vient le moment de rencontrer ces personnes-là, eh bien, ils sont toujours très heureux parce qu'ils savent qu'au contact, à la rencontre, dans la présence de ces personnes-là, ils ont toujours l'espoir de pouvoir passer un moment agréable, un moment eh bien, rempli de bons souvenirs, de choses agréables. La plus forte raison, lorsque vous et moi, nous avons la grâce et l'opportunité d'être dans la présence de notre Dieu, ensemble aussi en famille chrétienne, eh bien, la plus forte raison que notre joie est grande, frères et sœurs, mes bien-aimés. Avant de proclamer les oracles de l'Éternel, maintenant, je vous invite à ouvrir à la Bible dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 5, frères et sœurs. Nous allons lire les versets premiers jusqu'au verset 19, à la gloire de notre Dieu Tout-Puissant et trois fois saint. Ecclésiaste, chapitre 5, versets 9 à 19, à la gloire de notre Dieu Sauveur et Tout-Puissant, frères et sœurs. Ecclésiaste, chapitre 5, versets 9 à 19. Et je lis pour vous. Vous pouvez lire avec moi à la maison, hein, avec votre micro fermé. Lisez donc avec moi, frères et sœurs, s'il vous plaît. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Ses richesses se perdent par quelque événement fâcheux. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres et il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part, et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu, car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie, parce que Dieu répand la joie dans son cœur. Dès le Seigneur, dans son amour parfait, incommensurable, béni et sanctifié, frères et sœurs, la lecture de sa sainte parole pour la plus parfaite édification commune de nos âmes. Dimanche dernier, frères et sœurs, j'ai eu la grâce et le privilège de vous entretenir du chapitre 4 de l'Ecclésiaste dans le cadre de cette série thématique qui s'intitule de la façon suivante: dans un monde où tout est vanité, Jésus est notre meilleure assurance. J'ai parlé dimanche dernier de l'investigation, de l'examen ou de la série d'observations que l'Ecclésiaste, eh bien, est en train de faire sur le monde, la vie sur le soleil. Et cela nous a amené à parler. Après avoir parlé de tout ce que vous savez que nous avons parlé, l'Ecclésiaste nous a canalisé nos regards sur les relations sociales sous le soleil. Et il a mis l'emphase sur les relations sociales au niveau de l'injustice, de l'oppression qui existe dans la vie dans ce bas-monde, dans la vie sous le soleil. Il nous a fait comprendre en quoi cela représente une futilité, une vanité, et aussi en quoi c'est fragile la vie sous le soleil, ou bien les relations sociales sous le soleil. Il a mis l'emphase également, eh bien, sur la jalousie au travail, les rivalités, les concurrences, parfois loyales ou déloyales, saines ou malsaines, qui caractérisent la vie sous le soleil. Il a attiré notre attention également, eh bien, sur le fait que la vie est vanité, est futile, fragile sur le soleil, parce qu'un homme seul peut avoir à trimer dur, à travailler dur pour gagner sa vie, pour avoir des choses, accumuler des biens, mais malheureusement, le fait que l'homme est seul, il n'a pas d'héritier, personne pour jouir de ses biens. L'Ecclésiaste nous dit que c'est un mal, ou bien c'est une vanité, c'est une tragédie sous le soleil, frères et sœurs. Et comme d'habitude, depuis que j'ai initié la série, vous avez dit que cela ne veut pas dire que la vie sous le soleil ne mérite pas la peine d'être vécue, loin de là. Cette pensée n'est pas divine, elle n'est pas biblique, car la vie est précieuse en tant que don de Dieu. Mais ce que cela veut dire, lorsque, à travers l'Ecclésiaste, nous pouvons constater toutes ces choses caractérisant la vie sur le soleil, toutes ces futilités, toutes ces fragilités, toutes ces vanités, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre la vie. Loin de là, ça veut dire tout simplement qu'il faut vivre la vie de la bonne manière. C'est-à-dire qu'il faut vivre la vie en ayant confiance en Dieu, en ayant Dieu comme assurance, comme fondement de la vie. Et c'est ce qui donne le sens à la vie, frères et sœurs bien-aimés. Aujourd'hui, l'oratoire Peuple du Seigneur, chers amis visiteurs, chers amis internautes, l'Ecclésiaste attire notre attention sur un des sujets les plus controversés qui existent dans le monde et peut-être même dans l'Église, à savoir l'argent. Hein, l'argent. Et le Seigneur Jésus parle beaucoup de l'argent, hein, vous vous rappelez? Et la littérature fait état du fait que Jésus parle de l'argent, un cinquième des paroles de Jésus parle de l'argent. C'est très important de comprendre cela. C'est un sujet qui fait toujours problème, mais pourtant, apparemment, la Bible parle davantage d'argent que du paradis, que du salut, que de beaucoup d'autres doctrines de la foi chrétienne. Sur 31 173 versets existants dans la parole de Dieu, depuis que la parole a été partagée, séparée, structurée en versets, sur 31 173 versets qui existent, qu'il y a dans la Bible, il semble que, d'après les statistiques, plus de 2300 versets parlent de l'argent. Frères et sœurs bien-aimés, alors voyez-vous, quelqu'un a dit que le nerf le plus sensible du corps humain est celui qui va de notre cerveau à notre portefeuille. Je répète, quelqu'un a dit que le nerf le plus sensible du corps humain est celui qui va de notre cerveau à notre portefeuille. Et il blaguait probablement. Mais il dit cela parce que, d'après lui, l'argent est important. Ou alors l'argent a un pouvoir important sur la vie des gens. C'est ce qu'il voulait dire par là. Le roi Salomon, frères et sœurs, semble d'accord pour dire à sa façon que l'argent est important. L'argent est nécessaire. L'argent pèse beaucoup sur la vie des gens et dans la vie des gens. Nous savons, vous et moi, frères et sœurs, que le roi Salomon est très bien placé pour nous parler de la question d'argent, car il possédait beaucoup d'argent. Salomon était riche, frères et sœurs bien-aimés. Je crois que le Saint-Esprit de Dieu a choisi sciemment un homme riche comme Salomon pour nous parler de l'argent, comme l'Ecclésiaste ou Salomon l'a fait un peu partout, mais particulièrement à travers le passage que nous venons de lire. Cependant, frères et sœurs, l'Ecclésiaste nous dit également et surtout aujourd'hui que malgré toute son importance, malgré toute son utilité, malgré sa nécessité, malgré tous les avantages que l'argent peut procurer à l'homme, à l'humanité, l'argent a des limites considérables dont chacun doit tenir compte dans ses relations avec l'argent pour s'assurer de ne pas être déçu là où, au contraire, chacun, par la grâce de Dieu, à certaines conditions, dans certaines limites, pourrait être satisfait et content dans la vie sous le soleil. L'Ecclésiaste attire notre attention sur les limites et des sous, sur les limites de l'argent, sur les limites de la possession de l'argent. Le premier limite, ou bien le premier élément de limite, ou bien la première limite que l'Ecclésiaste révèle concernant l'argent, c'est que l'argent entraîne l'insatisfaction pour celui qui l'aime. Je répète, l'Ecclésiaste est en train d'attirer l'attention de l'Église sur les limites de l'argent et comme première limite qu'il met en évidence concernant l'argent, c'est que l'argent entraîne l'insatisfaction pour celui qui aime l'argent. Dans certaines circonstances, frères et sœurs, l'argent peut procurer une certaine satisfaction. Mais pour celui qui l'aime, ce n'est jamais le cas. Il n'entraîne jamais une satiété, une satisfaction. Le verset 9 du texte que nous venons de lire, le premier verset lu, nous dit « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié, n'est pas satisfait de l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. » Et l'Ecclésiaste, comme d'habitude, nous dit « C'est encore là une vanité. » Autrement dit, frères et sœurs, mes bien-aimés, les espoirs que suscite l'argent sont souvent déçus dans ce bas monde caractérisé par le péché et l'iniquité. L'argent entraîne des frustrations plutôt que de la satisfaction. On pourrait penser que plus on possède de l'argent, plus on est content de ce que l'on a. Mais la réalité est tout autre, nous dit l'Ecclésiaste, à savoir que l'argent que l'homme possède aiguise son appétit d'en posséder plus ou davantage, et cela à chaque jour qui passe. Celui qui aime les richesses, dit l'Ecclésiaste, n'en profite pas. C'est une autre manière pour lui de dire ce qu'il a déjà dit en haut, à savoir, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié. Certaines traductions disent, qui aime l'argent n'a pas de revenu. De l'appréciation de celui qui aime l'argent, il n'a pas assez de revenus ou même il n'en a rien, il n'a pas de revenus du tout. C'est ce que ce volet du verset 9 signifie. Qui aime l'argent n'a pas de revenus ou celui qui aime les richesses n'en profite pas. Alors, de son point de vue, de son jugement, de son appréciation, eh bien, celui qui aime l'argent n'en a pas assez. C'est une manière de dire ce qu'il a déjà dit en haut, quand il avait dit « celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié ». Celui qui aime l'argent considère toujours ce qu'il n'a pas et n'arrive jamais à considérer ce qu'il a. D'où la nécessité pour lui d'augmenter constamment son portefeuille. Et l'Ecclésiaste nous dit que c'est encore là une vanité. N'oubliez pas, la première limite de l'argent, au sens de l'Ecclésiaste, du point de vue de l'Ecclésiaste parlant, écrivant, enseignant, instruisant sous la dictée du Saint-Esprit de Dieu, c'est que l'argent ne satisfait pas celui qui l'aime. Pourquoi? Parce que plus celui qui aime l'argent a de l'argent, plus il veut en avoir. Deuxième limite. La deuxième limite de l'argent que nous signale l'Ecclésiaste dans ce passage, c'est que l'argent attire des profiteurs autour de celui qui le possède. Je répète, la deuxième limite de l'argent que nous signale l'Ecclésiaste, que nous indique l'Ecclésiaste dans ce passage, c'est que l'argent attire des profiteurs autour de celui qui possède l'argent. Ce qui fait qu'au final, selon l'Ecclésiaste, celui qui possède l'argent n'en jouit pas. Il ne fait que le regarder. Même si l'argent procure une certaine satisfaction, comme je le disais tout à l'heure, dans certaines conditions, une certaine joie, un certain bonheur, l'argent ne pourra jamais effacer la vanité, la lassitude, la futilité et la fragilité de la vie sous le soleil, frères et sœurs. C'est ce que l'Ecclésiaste est en train de nous dire lorsqu'il se plaît, lorsqu'il se met à mettre en évidence les limites de l'argent. Ou du moins, l'argent ne changera jamais la condition humaine, la situation humaine sous le soleil, entre autres parce que non seulement l'argent ne satisfait jamais celui qui l'aime, mais également parce que l'argent a cette capacité à lui seul d'attirer, voire de susciter une foule de gens qui voudront profiter de l'argent de celui qui le possède. C'est ce que l'Ecclésiaste suggère au verset 10 du passage à l'étude quand il dit « Quand le bien ici est synonyme de l'argent, quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, c'est-à-dire à celui qui possède le bien ou l'argent, sinon qu'il le voit de ses yeux. » Maintenant, la question est de savoir qui sont ceux qui mangent l'argent quand il abonde? Qui sont ceux qui le mangent quand il abonde? Ça va des situations les plus licites aux situations les plus illicites. Ça va des situations les plus légitimes aux situations les plus illégitimes. Sa parole, ce que l'Ecclésiaste dit ici, quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent, ça parle de gens les plus corrects, les plus bien intentionnés, aux gens les plus incorrects et les plus mal intentionnés. C'est-à-dire des parasites, des profiteurs et parfois même des arnaqueurs. Ce sont eux, quand l'argent abonde, ceux qui le mangent abondent. Laissez-moi commencer par des situations licites et des personnes licites. Certaines personnes ou catégories de personnes sont ciblées par des offres publicitaires de biens et services de certaines compagnies. Soit parce que la compagnie ou ces compagnies savent que ces personnes ou ces catégories de personnes-là ont la capacité de payer ces services et ces biens offerts, soit parce qu'elles pensent que ces personnes ou ces catégories de personnes-là ont la capacité de payer. En un mot, ceux qui, pour notre époque, entretiennent ou alimentent la surconsommation sont de ceux qui mangent l'argent de celui qui le possède quand l'argent abonde. Ils font partie de ceux qui mangent l'argent de celui qui le possède quand l'argent abonde. Il y a d'autres exemples, à part ceux qui ont toujours quelque chose à offrir, eh bien, aux gens qu'ils pensent qu'ils possèdent, tout le temps une maison achetée, tout le temps, eh bien, une voiture achetée, tout le temps une nouvelle marque de jeux, de jouets électroniques à vendre, à offrir. Et tout le temps, il y a des sollicitations au niveau des téléphones et autour, eh bien, amener les gens à consommer. Il y a d'autres exemples à part cela. Quand on augmente le salaire minimum et que suite à cette augmentation, le coût de la vie augmente, ceux qui augmentent le coût de la vie font partie, consciemment ou non, de ceux que l'Ecclésiaste considère ici comme ceux qui mangent l'argent du riche quand cet argent abonde, frères et sœurs. Avez-vous remarqué, une fois que la pandémie est sur le point peut-être de passer, il y a déjà plusieurs propositions d'augmenter l'impôt des plus riches. Et en temps normal, chaque fois que les finances publiques font face à des difficultés, à des déficits, les autorités songent toujours à augmenter les impôts sur le revenu, soit de la classe moyenne ou bien des riches. Que dire de la taxe municipale? Que dire de la taxe scolaire? Que dire des impôts, eh bien, fédéraux et provinciaux? Que dire de l'augmentation des tarifs d'hydroélectricité? Que dire de l'augmentation des tarifs de télécommunication, des plaques d'immatriculation, de permis de conduire, des tarifs d'autobus, des frais scolaires et j'en passe. Je crois que, et si ma mémoire est bonne, si mes souvenirs sont bons, je crois même que quand le Canada, il y a quelques années de cela, avait éliminé la TPS pour le Québec avait augmenté, ce serait à vérifier, au moins ils avaient songé à augmenter la TVQ. C'est clair que c'était une façon pour le gouvernement du Québec de récupérer, sinon la totalité de la TPS que les gens versaient auparavant au fédéral, du moins d'en récupérer un certain pourcentage, eh bien, de cette TPS sur la TVQ. Voilà, frères et sœurs, autant de manières licites, légales et légitimes pour notre époque, dont, quand le bien abonde, ceux qui le mangent de leur côté abondent aussi, tel que nous le dit l'Ecclésiaste. Ça peut être également un souci pour celui qui possède de plus en plus d'argent, d'augmenter de plus en plus son train de vie personnel. Dans ce cas, tous ceux auprès desquels il va solliciter des biens et services seront de ceux qui mangeront son argent une fois que son argent abondera, frères et sœurs. Pour le reste, vous pouvez l'imaginer vous-même. Il y a des endroits, il y a des pays, on dit que quand les gens ont de l'argent, ils ont beaucoup d'amis. Quand ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus d'amis. Je ne sais pas si vous avez peut-être expérimenté des choses de ce genre, mais j'ai déjà l'habitude d'entendre des gens qui parlent de ça. Quand les gens ont beaucoup d'argent, eh bien, ils ont beaucoup d'amis. Cela suppose des gens et qui veulent profiter de leur richesse et qui veulent bénéficier d'un partage de leur richesse. Ça aussi, c'est une façon qui explique quand l'Ecclésiaste dit quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Voilà pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de manière licite et de voir et cette réalité-là et aussi de manière illicite. Pensons aussi aux arnaqueurs, aux gens qui vont, eh bien, extorquer de l'argent à ceux qui en possèdent. Et quand il semblerait que plus les gens ont d'argent, eh bien, plus ça suscite, eh bien, la convoitise de ceux qui voudraient faire des arnaques pour, eh bien, leur soutirer de l'argent. J'ai déjà entendu beaucoup d'histoires d'arnaques en ce sens que je n'aurai pas le temps de partager avec vous, mais je crois que avec les exemples que je viens de vous donner, ça suffit pour vous expliquer qu'est-ce que l'Ecclésiaste veut dire quand il dit que quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Mais n'oubliez pas, l'Ecclésiaste dit cela pour souligner une deuxième limite de l'argent. La première limite de l'argent, n'oubliez pas, c'est que l'argent ne satisfait pas celui qui l'aime. La deuxième limite, eh bien, découverte par l'Ecclésiaste de l'argent, c'est que l'argent suscite des profiteurs autour de celui qui le possède. Limite numéro 3. La troisième limite de l'argent indiquée par l'Ecclésiaste dans ce passage, c'est que l'argent engendre de l'inquiétude ou bien un sentiment d'insécurité pour celui qui en possède, pour celui qui possède l'argent. Verset 11. Verset 11, peuple du Seigneur. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement ici, c'est satisfaction, mais la satisfaction du riche, le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir, frères et sœurs. Ce que le Cohélète, le prédicateur, le sage signale à travers ce verset 11, c'est que la vie d'un riche ou la vie de celui qui possède de l'argent fait face à des préoccupations, à des soucis de gestion, à des tracasseries susceptibles d'engendrer l'insomnie pour celui qui le possède, qui possède l'argent ou qui la possède ou qui possède la richesse. Une autre difficulté pour le riche, c'est qu'il vit constamment dans la peur de perdre ce qu'il a déjà acquis et ce qu'il a déjà investi. Le riche, ou bien celui qui possède, stresse à la moindre perspective de récession économique, à la moindre perspective d'effondrement du système financier. Assez, frères et sœurs, mes bien-aimés, pour rester éveillés presque constamment toute la nuit. Tout ceci ne facilite pas le sommeil, frères et sœurs. Et le fait que le riche veut toujours plus d'argent que ce qu'il possède est un facteur aggravant par rapport à l'insomnie, frères et sœurs, que l'argent entraîne. En ce sens que cela le contraint nuit et jour à faire des calculs mathématiques, arithmétiques et des pensées pour trouver le meilleur moyen d'augmenter sa richesse. Autrement dit, frères et sœurs, du point de vue de l'Ecclésiaste, il y a donc des désavantages à être pauvre, mais il y a tout aussi bien des désavantages à être riche. Ainsi en est-il de la vie sous le soleil. C'est précisément ce que l'Ecclésiaste est en train de nous faire comprendre. Là où il y a avantage dans la vie sous le soleil, il y a toujours un inconvénient. Ça aussi fait partie de la vanité, de la fumée, de la futilité, de la fragilité de la vie et de la poursuite du vent qui caractérise la vie sous le soleil, frères et sœurs. Et comme j'aime à le répéter depuis que j'ai commencé la série, il en sera de même jusqu'au renouvellement de toutes choses par Dieu le Père, le Créateur, le Maître de l'histoire, le Maître du monde. Frères et sœurs, l'argent est un bon maître, mais il est un mauvais serviteur, dit-on. Malgré ce que notre société capitaliste croit et essaye de nous faire croire, frères et sœurs, la Bible dit que l'argent n'est pas tout. La Bible dit que l'argent a des limites qui font en sorte qu'à lui seul, l'argent ne peut pas procurer le bonheur et la satisfaction véritable à l'être humain, frères et sœurs. Autrement dit, ça prend Dieu, mes bien-aimés. Ainsi, nous devrions, vous et moi, continuer de nous réjouir d'entendre Dieu nous rappeler sans cesse dans Ésaïe 55, versets 2 à 3, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, dit Dieu, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille, dit Dieu, et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. N'oubliez pas, l'argent ne satisfait jamais celui qui l'aime. C'est la première limite vers laquelle l'Ecclésiaste veut et attirer notre attention. La deuxième limite, c'est que l'argent suscite des profiteurs autour de celui qui le possède. La troisième limite indiquée par l'Ecclésiaste de l'argent, c'est que l'argent entraîne l'inquiétude ou bien un sentiment d'insécurité pour celui qui le possède. La quatrième limite de l'argent, c'est qu'il est probable que l'argent se perde à tout moment. Ça, c'est une limite majeure. Il est probable que l'argent prenne les aigles et prenne les ailes et s'envole au moment où on y pense le moins. C'est la quatrième limite de l'argent que nous signale l'Ecclésiaste aujourd'hui, frères et sœurs. Il est probable que l'argent se perde à tout moment. Il est probable que l'argent prenne les ailes et s'envole à tout moment ou alors au moment où on y pense le moins. Versets 12 à 15 du texte que nous avons lu, frères et sœurs. Il est un mal grave, dit l'Ecclésiaste, que j'ai vu sous le soleil. Des richesses, et il met deux points. Et quand il met deux points, il commence à dire des richesses. Alors, il explique le mal. Deux points, c'est comme c'est-à-dire des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Verset 14. Ces richesses se perdent par quelque événement fâcheux. Il a engendré celui qui possède l'argent, il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. J'ai déjà souligné, frères et sœurs, dans une de mes prédications sur cette série, à quel point, vous vous rappelez sans doute, à quel point cette pandémie et certaines crises financières qui ont frappé le monde dans des temps passés nous ont appris que l'argent est éphémère. Au sens où l'argent peut être perdu, peut se perdre si facilement, frères et sœurs. Parfois, l'argent se perd en raison de mauvaises décisions financières dans des investissements risqués, par exemple, comme je l'ai dit. Parfois, l'argent se perd par un effondrement du système financier national ou international. L'argent se perd par des récessions économiques ou des tragédies personnelles et des malheurs, frères et sœurs. Dans Proverbes chapitre 23, les versets 4 à 5, Salomon écrit « Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. » Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. J'ai vu, frères et sœurs, j'ai entendu des villes en faillite, des villes qui étaient riches, qui avaient beaucoup d'argent, qui sont soutenues par des gens riches, par des contribuables riches. Et ces villes ont leur système financier qui est parti en fumée. Et rappelez-vous de la faillite de la ville de Détroit aux États-Unis. À l'automne 2008, quand Wall Street s'est effondrée, frères et sœurs, vous vous rappelez, là, 2008, j'ai lu que les ventes automobiles avaient plongé de 30% chez GM et Chrysler. Et ces compagnies et ces constructeurs automobiles étaient arrivés quelque part où elles avaient même manqué de liquidité. Elles étaient en défaut de paiement. Plus près de nous, les spécialistes ont évalué à plus de 10 000 milliards de dollars les pertes pour l'économie mondiale liées à la COVID-19. Vous savez quoi? Ces pertes, ce sont des pertes d'individus, hein? Quand on dit perte de l'économie mondiale, les coffres de l'État où l'argent ne rentre pas parce que, eh bien, il y a cette pandémie, eh bien, ces pertes, avant d'être des pertes de l'État, des pertes du monde, c'est des pertes d'hommes et de femmes, hein, d'individus, hein, parce que ce sont eux qui alimentent, qui font rouler l'économie, qui alimentent les coffres de l'État. L'État dit qu'il perd de l'argent parce que des gens, des individus, des particuliers, comme vous et moi, riches, pauvres, moins riches, classe moyenne, ont perdu des sous, frères et sœurs. Des entreprises, des multinationales ont perdu de l'argent. Derrière ces multinationales, derrière ces États-nations, il y a des individus. Donc, quand on dit que les multinationales ont perdu, quand par exemple le monde touristique a perdu des sous, mais ce sont des hommes et des femmes qui ont perdu des sous, hein. Il y a, derrière ces noms-là, il y a des personnes, il y a des individus. L'Ecclésiaste semble nous dire que l'argent est fragile, que l'argent est futile, que l'argent est vanité, non seulement pour les raisons qu'il a déjà énumérées en haut, que j'ai regardées avec vous déjà, mais aussi parce que l'argent, eh bien, ça peut se perdre, ça peut s'envoler, peut partir à n'importe quel moment de la durée. L'Ecclésiaste semble nous dire qu'il y avait des situations semblables de pertes comme celles que j'ai énumérées en haut à son époque. Les gens ont travaillé dur, les gens ont trimé dur pour posséder leur argent. Ils ont économisé leur argent, puis d'une manière ou d'une autre, soit dans une entreprise commerciale qui a mal tourné, soit dans une catastrophe naturelle ou bien une pandémie, eh bien les gens ont tout perdu subitement. La vie sous le soleil, nous dit l'Ecclésiaste, est ainsi faite, frères et sœurs. C'est à prendre ou à laisser. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous invite les gens à mettre leur espérance, à mettre leur espoir, à mettre leur confiance, à mettre leur assurance ailleurs, au-dessus du soleil, c'est-à-dire en Dieu, plutôt que de mettre son assurance sur l'argent, frères et sœurs. N'oubliez pas, l'argent ne satisfait jamais celui qui l'aime, comme première limite de l'argent. Deuxième limite de l'argent suscite toujours une foule de profiteurs autour de celui qui le possède. Troisième limite de l'argent engendre de l'inquiétude ou bien de l'insomnie, de l'insécurité pour celui qui le possède. Et quatrième limite de l'argent, telle que nous venons de le voir, l'argent peut s'envoler à tout moment de la durée, frères et sœurs. Pour toutes ces raisons, l'argent ne peut pas être le fondement de l'espérance humaine. L'argent ne peut pas être le fondement de la joie, de la satisfaction humaine. Pour toutes ces raisons, l'argent ne peut pas être le fondement, eh bien, de la confiance humaine, frères et sœurs bien-aimés. Et en cinquième limite de l'argent, il y a une cinquième et dernière limite de l'argent que j'aimerais voir avec vous rapidement et que Salomon souligne dans ce passage. C'est que l'argent ne nous suit pas dans notre tombe. L'argent ne nous suit pas dans notre tombe. Oh. Ou du moins, l'homme n'emporte pas son argent ou bien sa richesse avec lui dans la tombe. Ça aussi, c'est une vanité. Verset 15. Comme il est sorti, l'homme ou la femme, comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Quand l'Ecclésiaste dit c'est encore là un mal grave, il veut dire que c'est encore là une vanité. C'est encore là, eh bien, une futilité, une fumée. C'est encore là poursuite du vent, frères et sœurs. C'est ce qu'il veut dire quand il dit c'est encore là un mal grave. Il s'en va, c'est-à-dire vous et moi, il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent, c'est-à-dire pour vainement, c'est-à-dire vainement, pour du vent, c'est-à-dire, et il a travaillé vainement, inutilement, futilement, frères et sœurs. Pire encore, d'après le verset 2 du chapitre 6, et que je n'avais pas le temps de lire avec vous, je voulais absolument écourter la lecture. Un homme peut travailler dur, dit l'Ecclésiaste. Il peut épargner de l'argent minutieusement, rondement, brillamment. Il peut l'investir dans des entreprises ou dans des placements, dans des fonds de retraite. Mais que si cet homme ne prend pas le temps d'en profiter, eh bien, ou s'il n'a pas la capacité d'en profiter, pensons peut-être à la raison de santé, eh bien, cet homme, dit l'Ecclésiaste, laissera tout derrière lui et ensuite quelqu'un d'autre qui n'a pas travaillé pour cet argent-là, un étranger, dit l'Ecclésiaste, eh bien, quelqu'un qui n'est pas lié d'aucune façon à cet homme-là se retrouve avec l'argent que le rude travailleur aura consacré sa vie à laisser derrière lui. C'est encore là un mal grave, dit l'Ecclésiaste. C'est encore là une vanité. C'est encore là poursuite du vent. Que faire devant la vanité de l'argent? Que faire devant la vanité de la vie sous le soleil, sous l'angle de la richesse, sous l'angle de l'argent? L'argent, malgré toute son utilité, a ces cinq limites-là que nous venons de voir. Pour ces raisons-là, l'Ecclésiaste dit, écoutez bien, ne vous appuyez pas sur l'argent. Ne comptez pas sur l'argent. Ne prenez pas l'argent comme votre assurance. Que faire alors, peuple du Seigneur? Voici ce qu'il faut faire. Numéro 1. S'assurer qu'on est content en Dieu, même si nous ne possédons pas un sou. Je répète, s'assurer pour combattre, pour faire face à la vanité de l'argent, de la vie sous le soleil, sous l'angle de la richesse de l'argent, que faire pour espérer goûter un minimum de satisfaction, même si on sait que cette satisfaction, ce bonheur, ne sera jamais absolu, même si on le sait très bien. Mais dans certaines circonstances que nous allons voir, qu'est-ce qu'il faut faire, commencer par faire pour s'assurer, eh bien, d'être heureux au milieu même de la vanité de la vie sous le soleil? Eh bien, voici ce qu'il faut faire. Je répète. S'assurer qu'on est content en Dieu, même si nous ne possédons pas d'argent. S'assurer que l'argent que nous possédons vient de Dieu, deuxièmement. Troisièmement, reconnaître qu'on peut être heureux quand c'est Dieu qui nous donne le sou, ou bien le peu de sou, le peu d'argent que nous possédons et que c'est lui qui peut nous permettre d'en jouir. Tout cela se trouve au verset 17 à 18 frères et sœurs. Voici ce que l'Écriture dit. Voici ce que j'ai vu, dit l'Ecclésiaste. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. C'est là sa part signifie, c'est là son lot. Il ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu lui donne. Il ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu lui permet. La condition du bonheur, c'est de rester dans les limites que Dieu a fixées, frères et sœurs. Verset 18. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu, frères et sœurs. Cela revient à dire l'oratoire. Peuple du Seigneur, chers amis visiteurs, amis internautes, que Dieu donne de l'argent à certaines personnes et cela leur apporte une joie ou bien une satisfaction. Quand Dieu donne de l'argent, malgré toutes les limites que nous venons de voir que l'argent possède, quand c'est Dieu qui donne de l'argent à une personne, et que Dieu lui donne la capacité d'en jouir, cette personne a la possibilité d'être dans la joie et la satisfaction. Ou du moins, certains peuvent éprouver de la joie sous le soleil, de la bonne joie, de la vraie joie, à condition de savoir que l'argent qu'ils possèdent est un don de Dieu, frères et sœurs, peuple du Seigneur. En d'autres termes, ceux qui nous ont dit, à vous et à moi, depuis que nous étions tout petits, que si nous travaillons fort pour devenir riches, pour avoir beaucoup d'argent, pour accéder à la classe moyenne, nous aurons le bonheur, le contentement et le plein épanouissement personnel, ne nous ont pas dit toute la vérité. Ils nous ont dit une partie de la vérité. Car à la lumière de la parole de Dieu, ce n'est pas l'argent, mais Dieu qui fait le bonheur. À la lumière de la parole de Dieu, ce n'est pas l'argent, mais Dieu qui satisfait l'homme. Ce n'est pas l'argent, mais Dieu qui construit l'homme. Ce n'est pas l'argent, mais Dieu qui fait la valeur d'un homme. Ce n'est pas l'argent, mais Dieu qui transforme l'homme. Ce n'est pas l'argent, mais Dieu qui remplit l'homme et le rend heureux. Voilà pourquoi, alors qu'il avait littéralement perdu tout son argent, entre autres, le patriarche Job était capable de dire, dans la joie et la satisfaction, dans le bonheur et la sécurité, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni, parce que son espérance, sa confiance, son assurance, sa vie n'était pas fondée sur son argent, sur ses avoirs, sur sa richesse, frères et sœurs. Quand on sait, peuple du Seigneur, que l'argent n'est pas tout, il y a de ces louanges qu'on est encore capable d'offrir à Dieu, même si on est privé de son argent. Je répète, quand on sait que l'argent n'est pas tout, il y a de ces gloires, il y a de ces louanges, il y a de ces services que nous pouvons encore offrir à Dieu, même si nous n'avons pas d'argent ou plus d'argent du tout si nous en avions avant, frères et sœurs. Il y a de ces services qu'on peut encore rendre à Dieu. Il y a de ces adorations qu'on peut encore faire monter à Dieu, même si nous sommes à court d'argent, parce que nous savons très bien que le fondement de notre adoration, le fondement de notre vie, le fondement de notre bonheur, de notre joie et de notre contentement n'est pas l'argent, frères et sœurs. Il y a de ces relations qu'on ne brisera pas à cause de l'argent, quand on sait que l'argent n'est pas tout. Il y a de ces mariages qu'on ne brisera pas à cause de l'argent, quand on sait que l'argent n'est pas tout. Frères et sœurs, il y a de ces orphelins, il y a de ces enfants sans père, monoparentaux, qu'on n'aurait pas. Si les gens savaient que l'argent n'était pas tout, frères et sœurs, quelqu'un a dit que notre véritable richesse s'évalue à ce que nous valons si nous perdons toute notre fortune. Et je crois que c'est à juste titre. Je répète, quelqu'un a dit que notre véritable richesse s'évalue à ce que nous valons si nous perdons toute notre fortune. C'est ce que Job nous a montré. Job nous a montré c'était quoi sa valeur, sa véritable valeur. Qu'est-ce que nous valons, vous et moi, si nous perdons toute notre fortune, tout notre argent, si c'était la volonté de Dieu? Nous valons, vous et moi, par la grâce de Dieu, les chrétiens du monde entier, ceux qui nous ont précédés, ceux qui viendront après nous, nous valons avec eux autres, par la grâce de Dieu, le sang de Jésus-Christ, le sang du Fils de Dieu, le sang du Fils de l'homme, le sang de Jésus, l'homme parfait, le seul juste. C'est ce que nous valons. Nous valons le prix de son sang. Ce que son sang vaut, c'est ce que nous valons, frères et sœurs. Eh bien, lorsqu'il nous a rachetés, c'est au prix de son sang qu'il l'a fait, frères et sœurs. Donc, nous valons le prix de son sang. Quand, eh bien, il ne nous reste plus rien dans la vie sous le soleil, quand il ne nous reste plus rien, eh bien, dans cette vie, eh bien, non, il nous reste cette valeur marchande inestimable, eh bien, qui nous a valu la vie éternelle en Jésus-Christ, c'est-à-dire le sang de Jésus, c'est elle, cette valeur inestimable qui fait en sorte que notre vie, ma vie, en Dieu et par sa grâce, eh bien, a une valeur qui dépasse la valeur de l'argent, une valeur inestimable, frères et sœurs. Personne ne peut mener une vie remplie de sens, une vie pleine de sens, eh bien, sans avoir, eh bien, été béni et sauvé par le sang de Jésus de Nazareth. C'est le sang de Jésus qui fait toute la différence. Voilà pourquoi votre serviteur, eh bien, dit que dans un monde où tout est vanité, Jésus est notre meilleure assurance, frères et sœurs. Eh bien, nous ne nous méprenons pas, frères et sœurs. L'argent est important. L'Ecclésiaste n'est pas en train de dénigrer l'argent. Nous ne pouvons pas être hypocrite. Votre pasteur n'est pas hypocrite. Eh bien, nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin de l'argent. Et pour vivre, ça prend de l'argent. Notre Église, pour fonctionner, ça prend de l'argent. Le monde, pour fonctionner, ça prend de l'argent. L'Ecclésiaste n'est pas en train de faire le procès de l'argent. Il n'est pas en train de dénigrer l'argent. D'abord, il avait beaucoup d'argent. Quand il écrivait, il n'avait pas, eh bien, rejeté et jeté ses argent et son argent, pardon, eh bien, à la poubelle. Il les gardait. Mais il était en mesure d'expérimenter les limites, les faiblesses, les désavantages de l'argent, particulièrement quant au bonheur, quant à la satisfaction, quant à la paix véritable, quant à la joie véritable. L'argent est nécessaire. Mais si quelqu'un pense que l'argent tout seul rend l'homme heureux et épanoui, l'Ecclésiaste nous dit, écoutez bien, vous êtes dans l'erreur. vous serez frustré, vous serez déçu pour les raisons qu'il a données. C'était ça son rôle, c'était ça, eh bien, son objectif, sa finalité, son intention quand il énumérait les limites de l'argent. C'était pour dire, écoutez bien, ne vous appuyez pas sur l'argent parce que l'argent a des limites. Voilà pourquoi Dieu parle souvent dans sa parole de juste et d'injuste. Rarement Dieu va parler de riche et de pauvre. Il parle souvent de juste et d'injuste. Pourquoi? Parce que ce qui fait la différence entre les hommes, c'est le sang de Jésus. Ce n'est pas l'argent. Avec toutes ses limites, l'argent ne peut pas faire une grande différence. Il va faire une certaine différence à certains moments, sous certains rapports, mais il ne peut pas faire la différence de façon absolue. Ce qui fait la différence de façon absolue, c'est la vie éternelle que vous et moi, nous avons déjà par la grâce de Dieu. C'est le sang de Jésus qui nous couvre, qui nous a lavés, qui nous a sanctifiés, qui nous a purifiés. C'est ce qui fait la différence. Voilà pourquoi la Bible parle souvent de deux classes d'hommes, les justes et les injustes. Et rarement, c'est la société, et c'est Karl Marx, c'est le communisme, le capitaliste. Eh bien, c'est les groupes de pression qui vont souvent parler de classe, riche, pauvre, classe moyenne. La Bible parle de deux classes d'hommes. Les sauvés et les non-sauvés, les justes et les injustes, frères et sœurs, ceux qui ont la vie éternelle, les régénérés et les irrégénérés. Pourquoi? Parce que Dieu sait très bien que la différence, c'est le sang de Jésus qui le fait. C'est la vie éternelle qui le fait. C'est le pardon de Dieu en Jésus qui fait la différence. La Bible insiste, frères et sœurs, sur le fait qu'il y a deux classes d'hommes. Pourquoi il fait cela? C'est pour attirer notre attention sur le fait que le bonheur d'un homme, sa valeur, son épanouissement, sa joie, sa satisfaction ne dépend pas des sous, de son compte en banque, de son compte de retraite, de son CELI, de son REER, ou bien quoi d'autre, de son assurance. Tu as une assurance, la personne a une assurance de 1 million, bravo, gloire à Dieu, surtout si c'est dans de bonnes conditions, c'est Dieu qui l'a donné, pourquoi pas, ne pas nous en réjouir. Mais l'espoir, l'assurance de la personne, est-ce que c'est dans ça? Mais l'Ecclésiaste dit non, ça ne sert à rien dans ce cas-là. Mais autrement, ça sert à quelque chose, puis on va garder notre sou, on va garder notre argent, on va travailler pour avoir un meilleur salaire, pourquoi pas. On va changer de travail, de métier, on va étudier plus pour avoir de meilleurs salaires. On n'est pas en train de dénigrer l'argent ou la richesse ici. N'oubliez pas cela. On est en train de dire que l'argent ne mérite pas toute notre confiance, toute notre assurance, pour les limites qu'on vient d'indiquer, frères et sœurs. Ne nous laissons pas induire en erreur. Concentrons-nous sur la grâce de Dieu, le seul grand pourvoyeur. L'air que nous respirons, la nourriture que nous mangeons, la santé que nous avons, les médicaments que nous prenons, les familles que nous apprécions, les amitiés que nous chérissons, les emplois que nous avons, les maisons que nous possédons, les comptes en banque que nous possédons. Le Seigneur est celui seul qui nous les donne gracieusement. Et alors, par le fait même, il est celui seul, le seul qui nous donne la capacité d'en jouir, d'être heureux avec cela. Et aussi, il nous donne la capacité de savoir que lui seul est notre assurance, lui seul est notre espérance, lui seul est le fondement de toute vie agréable, de toute vie, eh bien, qui vaut quelque chose dans l'éternité de Dieu. Dieu a sa balance. La balance de Dieu, ce n'est pas l'argent. C'est la relation que chaque homme, chaque femme, chaque jeune, chaque aîné, chaque enfant, chaque pasteur entretient avec l'éternité qui détermine eh bien, la condition de chaque homme, la valeur devant Dieu. Et avec la lumière du sang de Jésus, que Dieu évalue la capacité de chaque homme à jouir du bonheur. En terminant, frères et sœurs, je rappelle, l'Ecclésiaste n'a rien contre l'argent. Au contraire, il dit simplement que l'argent est éphémère. Il dit simplement que l'argent est vain. Il dit simplement que l'argent est fragile et que l'argent est dérisoire. Par conséquent, ne nous appuyons pas sur l'argent. Conservons nos relations. Ne gâtons pas nos relations avec nos enfants, nos femmes, nos maris pour l'argent. L'argent a des limites. J'espère que vous avez été bénis, que le Seigneur a parlé à vos cœurs, à mon cœur. J'espère que nous allons nous rappeler quelles sont ces limites de l'argent. Je n'aurai pas le temps de vous faire le résumé. Allez dans Proverbe, dans Ecclésiaste, chapitre 5, versets 9 à 16, pour revoir ces limites de l'argent et pourquoi l'argent ne mérite pas notre confiance, notre fondement, et pourquoi il ne fait pas notre bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Au contraire, plus souvent qu'autrement, l'argent déçoit, l'argent frustre. Mais Dieu, lui, nous contente, nous satisfait, nous rend heureux par sa grâce, par son amour, par sa toute-puissance, par le sang de Jésus qui nous couvre. N'oublions pas cela. Je ne sais pas s'il y a des personnes avec nous sur la ligne qui n'ont pas encore accepté Jésus comme étant leur sauveur. Peut-être que vous êtes à la recherche d'un fondement à votre vie. Vous découvrez la vanité de la vie, peut-être pas dans les mêmes mots que l'Ecclésiaste, mais vous réalisez que la vie est parfois ennuyeuse, que la vie est parfois problématique. Vous réalisez parfois que la vie est fragile. Vous réalisez parfois que la vie est futile, même si vous n'utilisez pas les mêmes mots que l'Ecclésiaste. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous sentez qu'il y a un vide dans votre cœur. Vous sentez que vous avez des sous quand même. Vous avez un bon travail. Vous avez une belle maison. Vous avez des amis. Mais vous sentez qu'il y a un vide dans votre cœur. Vous avez beaucoup de jeux électroniques à jouer. Vous passez 20 heures, 10 heures, 12 heures à jouer à des jeux électroniques. Et malgré tout, vous sentez que vous avez toujours une certaine insatisfaction dans le cœur. Vous avez raison. Vous avez raison, mais Dieu lui peut faire la différence. Et c'est ce que l'Ecclésiaste est en train de dire. Dieu lui peut faire la différence. Remplis-toi, remplissez-vous de Dieu. Remplissez-vous de Dieu, saisis la grâce de Dieu, saisis la main de Dieu. Et vous allez voir, vous allez être rempli. Vous allez connaître des temps difficiles comme tout le monde, parce que vous êtes encore sur cette terre. Mais au final, vous aurez toujours la victoire sur la vanité de la vie. Votre joie, votre contentement, votre satisfaction dépasseront toujours eh bien, les ennuis, les vanités. Même la mort ne pourra pas eh bien, prendre votre joie pour longtemps. Elle pourra le faire pour quoi? Un mois, deux mois, une semaine, trois semaines, peut-être même une année. Mais elle ne pourra pas prendre, voler votre joie. Satan ne pourra pas voler votre joie, votre paix, votre sécurité, votre satisfaction, votre bonheur que vous avez en Dieu. Il ne peut pas le faire. Il va les perturber. Ça, c'est sûr, mais il ne peut pas les prendre. Mais en condition pour ça, c'est que vous avez une relation solide avec Jésus, une relation solide avec mon Dieu, une relation solide avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment avoir cette relation solide? Ce n'est pas en payant de l'argent, c'est en acceptant Jésus-Christ comme étant votre sauveur, votre maître, votre rédempteur. Et de cette façon que vous pourrez commencer à avoir la victoire sur la vanité de la vie, sous le soleil, en attendant que vous rentriez dans la gloire de Dieu pour avoir la victoire finale sur la vanité. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Il y a quelqu'un qui a payé pour qu'un jour cesse la vanité de la vie sous le soleil. Ce quelqu'un-là, c'est Jésus de Nazareth. Je sais que je l'ai déjà dit, mais c'est le fondement même de l'Évangile. Jésus a expérimenté la vanité pour mettre fin à la vanité un jour. Il commence à le faire, bien entendu, mais il accomplira cette œuvre complètement au jour J. Il a expérimenté la vanité. Vous savez en quel sens? Je n'aurai pas le temps de vous expliquer en quel sens Jésus a expérimenté. Il a endossé la vanité pour que vous et moi, nous ayons la victoire sur la vanité. Cette vanité qui caractérise la vie que vous voyez là n'est pas éternelle. Elle a une fin, elle a une limite. Frères et sœurs, mais pour eh bien, jouir de cette fin, de cette limite, le moment venu, il faut accepter Jésus comme étant votre sauveur personnel. Et c'est ce que nous vous invitons à faire. C'est ce que je vous offre à faire. Je veux vous accompagner. Je veux vous aider à le faire. Juste à entrer en contact avec moi, je m'appelle Sergo. Et puis, nos coordonnées sont sur le site de l'Église. Vous pouvez aller les voir pour approfondir ce que vous venez d'entendre. Comment être heureux? Comment avoir un sens à notre vie? Je peux vous en parler davantage. Que le Seigneur, dans son amour, dans sa grâce, nous bénisse ensemble, frères et sœurs. Amen.